Les possédés. As-tu déjà vu un esprit?
Moi?
Non, mais ma grand-mère en a vu. C'est comme moi, je n'en ai jamais vu, mais ma grand-mère en avait qui lui courait sans cesse dans les jambes. Et par respect pour le témoignage de nos grand-mères, nous croyons à l'existence des esprits. Mais n'avions-nous pas aussi des grands-pères, et ne haussaient-ils pas les épaules chaque fois que nos grands-mères entamaient leurs histoires de revenants?
Hélas, oui.
C'étaient des incrédules, et ils ont fait grand tort à notre bonne religion, tous ces philosophes. Nous le verrons bien par la suite. Qu'y a-t-il au fond de cette foi profonde dans les revenants, sinon la foi dans l'existence d'êtres spirituels en général? Et la seconde ne serait-elle pas déplorablement ébranlée s'il était établi que tout homme qui pense doit hausser les épaules devant la première? Les romantiques, sentant combien l'abandon de la croyance aux esprits ou revenants compromettait la croyance en Dieu même, s'efforcèrent de conjurer cette conséquence fâcheuse. Dans ce but, non seulement ils ressuscitèrent le monde merveilleux des légendes, mais ils finirent par exploiter le monde supérieur avec leurs somnambules, leurs voyantes, etc. Les bons croyants et les pères de l'Église ne soupçonnaient guère que, la croyance aux revenants, s'effondrant, c'était le sol même qui se dérobait sous la religion, désormais flottante et sans appui. Celui qui ne croit plus à aucun revenant n'a qu'à être conséquent avec lui-même pour que son incrédulité le conduise à s'apercevoir qu'il ne se cache derrière les choses aucun être à part, aucun revenant. Ou, pour employer un mot dont on a naïvement fait un synonyme de ce dernier, aucun esprit. Mais il existe des esprits. Contemple le monde qui t'entoure, et dis-moi si derrière toute chose ne t'apparaît pas un esprit. La fleur, l'humble fleur te dit l'esprit du Créateur qui en fit une petite merveille. Les étoiles proclament l'esprit qui ordonne leur cours. Un esprit de sublimité plane au sommet des monts. L'esprit de la mélancolie et du désir murmure sous les eaux. Et dans les hommes parlent des millions d'esprits. Que les montagnes s'affaissent, que le monde des étoiles tombe en poussière, que les fleurs se flétrissent et que meurent les hommes, que survit-il à la ruine de ces corps visibles? L'esprit invisible, éternel. Oui, tout dans ce monde est hanté. Que dis-je? Ce monde lui-même est hanté. Masque décevant, il est la forme errante d'un esprit. Il est un fantôme. Qu'est-ce qu'un fantôme, sinon un corps apparent, mais un esprit réel? Tel est le monde, vain, nul, illusoire apparence, sans autre réalité que l'esprit, dont il est l'enveloppe visible. Regarde, ici, là, de toutes parts, t'entoure un monde de fantômes. Tu es assiégé sans cesse de visions, d'apparitions. Tout ce qui se montre à toi n'est que le reflet de l'esprit qui l'habite. Une apparition spectrale, le monde entier n'est qu'une fantasmagorie derrière laquelle s'agite l'esprit. Tu vois des esprits. Vas-tu peut-être le comparer aux anciens qui voyaient partout des dieux? Les dieux, mon cher moderne, ne sont pas des esprits. Les dieux ne réduisent pas le monde à n'être qu'une apparence et ne le spiritualisent pas. À tes yeux, le monde entier est spiritualisé. Il est devenu un énigmatique fantôme. Aussi ne songes-tu même plus à t'étonner de ne trouver en toi qu'un fantôme. Ton esprit ne hante-t-il pas ton corps et n'est-il pas, lui, le vrai, le réel, tandis que ton corps n'est qu'une apparence, quelque chose de périssable et sans valeur? Ne sommes-nous point tous des spectres, de pauvres êtres tourmentés qui attendent la délivrance? Ne sommes-nous pas des esprits? Depuis que l'esprit a paru dans le monde, depuis que le Verbe s'est fait chair, ce monde spiritualisé et livré aux enchantements n'est plus qu'une maison hantée. Tu as un esprit car tu as des pensées. Mais que sont ces pensées? Des êtres spirituels. Elles ne sont donc point des choses? Non, mais l'esprit des choses, ce qu'il y a en elles de plus intime, de plus essentiel, leur idée. Ce que tu penses n'est donc pas simplement ta pensée? Au contraire, c'est ce qu'il y a de plus réel, de proprement vrai dans le monde. C'est la vérité même. Quand je pense juste, je pense la vérité. Je puis me tromper au sujet de la vérité, je puis la méconnaître, mais lorsque ma connaissance est véridique, c'est la vérité qui en est l'objet. Aspires-tu donc à connaître la vérité? La vérité m'est sacrée. Il peut arriver que je trouve une vérité imparfaite et que je doive la remplacer par une meilleure, mais je ne puis supprimer la vérité. Je crois à la vérité et c'est pourquoi je la recherche. Rien ne la dépasse, elle est éternelle. La vérité est sacrée et éternelle. Mais toi qui t'emplis de cette sainteté et en fais ton guide, tu seras toi-même sanctifié. Le sacré ne se manifeste jamais à tes sens. Ce n'est jamais comme être matériel que tu en découvres la trace. Il ne se révèle qu'à ta foi, ou plus exactement à ton esprit. Car il est lui-même quelque chose de spirituel, un esprit. Il est esprit pour l'esprit. La notion de sainteté ne se laisse pas extirper aussi facilement que beaucoup semblent le croire, qui se refusent à employer encore ce mot impropre. À quelques points de vue qu'on se place pour m'accuser d'égoïsme, ce reproche sous-entend toujours que l'on a en vue quelque chose d'autre que moi, que je devrais servir de préférence à moi-même, que je devrais estimer plus important que tout le reste, bref, quelque chose en quoi je devrais chercher mon véritable salut, c'est-à-dire quelque chose de saint, de sacré. Que ce sacro-saint soit d'ailleurs si humain que l'on voudra, qu'il soit l'humain même, cela ne lui enlève rien de son caractère et fait tout au plus de ce sacré supraterrestre un sacré terrestre, de ce sacré divin un sacré humain. Rien n'est sacré que pour l'égoïste qui ne se rend pas compte de son égoïsme, pour l'égoïste involontaire. J'appelle ainsi celui qui, incapable de dépasser jamais les bornes de son moi, ne le tient cependant pas pour l'être suprême, qui ne sert que lui en croyant servir un être supérieur, et qui, ne connaissant rien de supérieur à lui-même, rêve pourtant quelque chose de supérieur. Bref, c'est l'égoïste qui voudrait n'être pas égoïste, qui s'humilie et qui combat son égoïsme, mais qui ne s'humilie que pour être élevé, c'est-à-dire pour satisfaire son égoïsme. Comme il voudrait cesser d'être égoïste, il interroge ciel et terre en quête de quelque être supérieur auquel il puisse offrir ses services et ses sacrifices. Mais il a beau s'agiter et se mortifier, il ne le fait en définitive que par amour de lui-même. Et l'égoïsme, l'odieux égoïsme, ne le lâche pas. Voilà pourquoi je l'appelle un égoïste involontaire. Tous ses soins, toutes ses peines pour s'affranchir de son moi ne sont qu'un effort mal compris pour affranchir son moi. Es-tu lié à ton heure passée? Dois-tu faire aujourd'hui ce que tu fis hier? Ne peux-tu te transformer à chaque instant? S'il en était ainsi, tu te sentirais enchaîné et paralysé. Mais, à chaque minute de ton existence, une nouvelle minute de l'avenir te fait signe et t'appelle. En te développant, tu te dégages de toi, de ton moi actuel. Ce que tu es à chaque instant est ton œuvre, et tu dois à cette œuvre de ne pas te perdre, toi, son auteur. Tu es toi-même un être supérieur à ce que tu es, tu te dépasses toi-même. Mais ce fait que tu es supérieur à toi, que tu n'es pas seulement une créature, mais en même temps ton créateur, t'échappe en ta qualité d'égoïste involontaire. Et c'est pourquoi l'être supérieur reste pour toi un étranger. Tout être supérieur, vérité, humanité, etc., est un être au-dessus de nous. Il nous est étranger. C'est là un signe auquel nous reconnaissons ce qui est sacré. Il y a dans tout ce qui est sacré quelque chose d'inconnu, de différent, qui nous met mal à l'aise et nous empêche de nous sentir chez nous. Ce qui m'est sacré ne m'appartient pas. Si la propriété d'autrui, par exemple, ne m'était pas sacrée, je la regarderais comme mienne et ne laisserais pas échapper une occasion de m'en saisir. Si au contraire, la figure de l'empereur de Chine m'est sacrée elle reste étrangère à mes yeux, et je les baisse devant lui. Pourquoi une vérité mathématique indiscutable, qu'on pourrait, dans le sens usuel du mot appelé éternel, ne m'est-elle pas sacrée? Parce qu'elle n'est pas révélée. Elle n'est point la révélation d'un être supérieur. Entendre uniquement par révéler les vérités religieuses serait absolument erroné. Ce serait méconnaître complètement la valeur du concept « être supérieur ». Les athées tournent en dérision cet être supérieur auquel on avouait un culte sous le nom d'être suprême, et réduisent en poussière, l'une après l'autre, toutes les preuves de son existence, sans remarquer qu'eux-mêmes obéissent ainsi à leur besoin d'un être supérieur, et qu'ils ne détruisent l'ancien que pour faire place à un nouveau. À côté d'un individu humain, l'homme n'est-il pas un être supérieur? Et les vérités, les droits, les idées qui découlent de son concept ne doivent-ils pas, comme révélation de ce concept, être respectés et tenus pour sacrés? Supposez même qu'on vienne à démontrer la fausseté de telle vérité qui passait pour une de ses manifestations. Cela témoignera uniquement d'une fausse interprétation de votre part, sans causer le moindre préjudice à la notion sacrée elle-même et sans rien enlever de leur sainteté aux autres vérités, à celles qui doivent, à juste titre, être regardées comme ses révélations. L'homme dépasse tout homme pris individuellement, et s'il est l'essence de l'individu, il n'est en réalité pas son essence, car l'être ou l'essence de l'individu devrait être aussi unique que l'individu même. Mais une essence, un être supérieur, est pour les athées eux-mêmes l'essence ou l'être suprême. De même que les révélations divines ne furent pas écrites de la main de Dieu, mais publiées par les instruments du Seigneur, de même l'homme ne publie pas lui-même ses révélations, mais nous les fait connaître par l'intermédiaire de véritables hommes. Seulement ce nouvel être suprême trahit une conception bien plus spiritualisée que celle de l'ancien Dieu. Ce dernier pouvait encore être représenté sous une forme corporelle, on pouvait lui imaginer une certaine figure, tandis que l'homme, au contraire, reste purement spirituel, et on ne peut lui prêter aucun corps matériel particulier. Il est vrai qu'il ne manque pas d'une certaine corporalité, d'autant plus séduisante qu'elle paraît plus naturelle et plus terrestre, et c'est tout bonnement chaque homme corporel ou, plus simplement encore, la race humaine ou tous les hommes. L'esprit réintègre ainsi sa forme de fantôme et redevient compact et populaire à souhait. Saint, donc, est l'être suprême. Saint est tout ce en quoi il se révèle ou se révélera. Et sanctifiés sont ceux qui reconnaissent cet être suprême dans leur propre être, c'est-à-dire dans les manifestations de cet être. Ce qui est saint sanctifie en retour son adorateur. Le culte qu'il lui rend le sanctifie et sanctifie ce qu'il fait. Un saint commerce, de saintes pensées et de saintes actions, etc. L'objet qui doit être honoré comme l'être suprême ne peut, on le conçoit, être discuté avec fruit que pour autant que les contradicteurs les plus acharnés sont d'accord sur le point essentiel et qu'ils admettent l'existence d'un être suprême auquel s'adresse notre culte et nos sacrifices. Si quelqu'un souriait dédaigneusement devant toute controverse au sujet de l'être suprême, comme un chrétien peut sourire devant les discussions d'un chiite et d'un sunnite, ou d'un brahmine et d'un bouddhiste, ce serait qu'à ses yeux, l'hypothèse d'un être suprême est nulle et que toute contestation à ce propos est un jeu puéril. Que votre être suprême soit le Dieu unique en trois personnes, le Dieu de Luther, l'être suprême, du déiste, ou qu'il ne soit nullement Dieu, mais l'homme, c'est tout un pour qui nie l'être suprême lui-même. Vous tous qui servez un être suprême, quel qu'il soit, vous n'êtes que des gens pieux, l'athée le plus frénétique, comme le plus fervent chrétien. Dans la sainteté, vient au premier rang l'être suprême, et avec lui notre sainte croyance.